Entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement.
Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous voici de retour en votre compagnie entre midi et 13h. Association Ralentir pour vivre, nous parlons de l'épuisement. Bonjour Lia.
Bonjour Catherine.
Comment se sont passées ces vacances, ce pont ?
Eh ben, c'était magnifique.
Voilà.
Ressourcée, à fond, ravie de te retrouver.
Moi aussi, ravie de vous retrouver tous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'épuisement, mais plus particulièrement de l'épuisement des agriculteurs et encore plus particulièrement des éleveurs. Puisque c'est il faut bien partager éleveurs et céréaliers, c'est deux domaines différents. Okay. Or, nous avons une invitée aujourd'hui qui, elle, représente les éleveurs. Janine Ladonnet. Bonjour Janine.
Bonjour Catherine.
Voilà, qui est de la ferme du Clos Marin, une ferme d'élevage en agriculture bio avec transformation et vente directe au marché et à la ferme. Et en même temps, elle est membre de la Confédération Paysanne, le syndicat agricole qui défend l'agriculture paysanne avec des fermes à taille humaine. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, très bien résumé, Catherine.
Voilà. C'est une représentante très importante pour nous dans ce sujet parce qu'on va quand même faire un petit mémo. Les agriculteurs sont en épuisement. On a dit qu'on n'employait plus le mot anglais puisque ça arrache certaines oreilles. On parle d'épuisement. Et donc, chez les agriculteurs, il y a une forte tendance à être épuisé qui pousse même à retourner la violence contre soi-même, puisqu'on sait par statistique qu'il y a un suicide par jour. Ce qu'il faut savoir, il ne s'appelle pas au téléphone en disant « je me suicide aujourd'hui, demain c'est ton tour », seulement c'est une moyenne nationale et annuelle, ce qui est énorme. C'est un métier qu'on considère souvent comme tranquille dans la nature et autres. Mais il y a des charges, il y a des choses pénibles. Et justement, nous allons parler de la surcharge mentale dans le cadre justement de l'agriculture des éleveurs. Janine.
Oui, effectivement, je pense qu'on peut parler de surcharge mentale et pas de charge mentale parce que vraiment, au quotidien, on a énormément de choses à gérer. Il y a à la fois la charge physique puisqu'on travaille quand même beaucoup d'heures dans une journée et il y a aussi tout ce qu'on a à gérer quand on a un élevage. Hein, il y a tout l'aspect production, le sanitaire, tout ce qui est administratif, enfin, il y a vraiment... Et puis après, il y a tout ce qui peut se greffer là-dessus, tous les imprévus qui peuvent arriver chaque jour.
Oui, justement, tu me parlais des imprévus, et je ferai juste une aparté hors antenne, tu m'as parlé, par exemple, le vélage. C'est quelque chose qui est truffé d'imprévus.
Truffé d'imprévus, c'est vrai. Et puis depuis que, donc, l'année dernière, on a eu une maladie qui s'appelle la FCO, qui a débarqué un peu dans notre secteur. Et donc, on a eu beaucoup d'avortements. On en a encore un peu cette année. Nous, on en a eu un il y a 15 jours, là, sans forcément que les vaches soient malades. Hein. Elles ont pu... Enfin, le petit a pu être touché en début de gestation sur l'hiver dernier, en fait. Et donc, voilà, elles sont au parc avec les copines. On ne surveille pas forcément parce que ce n'est pas la bonne date. Et puis, on arrive, y a un petit avorton dans le parc, quoi. Il faut gérer. Il faut gérer dans l'instant. Même si on n'a pas le temps, il faut y aller, quoi.
C'est ça. Et puis, il y a une double pression qui est aussi, je dirais, tout le modernisme qu'on connaît et qui est quand même un modernisme à double tranchant. Par exemple, les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a en même temps des gens qui ont la douce idée de dire « Ah bah tiens, il s'est passé ça » ou une photo ou je ne sais pas quoi sur les réseaux. C'est quand même une seconde pression, ça aussi.
Alors oui, on se rend compte aujourd'hui aussi que quand on est éleveur, on a une sacrée pression de l'extérieur. On a l'impression qu'on a des comptes à rendre à tout le monde sur la manière dont on fait notre métier. Et ça, franchement, au quotidien, c'est très, très, très pesant. Je pense qu'il n'y a aucun métier où on est autant observé que ça. Et vraiment, je pense que pour beaucoup, c'est vraiment difficile à supporter, quoi.
Parce que dans ce cadre-là, en dehors de s'occuper des bêtes, il y a quand même tout une autre charge qui est la charge administrative aussi.
Oui, la charge administrative, elle est, je trouve qu'elle se décuple d'année en année, quoi. C'est, moi, ça fait 22 ans que je suis agricultrice et franchement, par rapport au début, je trouve qu'on passe de plus en plus de temps au bureau et qu'on n'y passe jamais assez de temps parce qu'on a l'impression d'être toujours en retard, d'avoir toujours oublié un truc. Oh là là, j'ai pas fait ça. Il faut que je me dépêche. Enfin, c'est tout le temps la course de ce côté-là aussi.
Au point de vue quantité d'administration en 22 ans, ça a doublé.
Oui, je pense. Et puis alors à ça, il faut ajouter que tout le monde pourrait nous dire, bah, vous avez qu'à prendre une secrétaire comme n'importe quelle entreprise, quoi. Hein. Une secrétaire, une comptable. Sauf que ben, il y a un gros problème, c'est qu'on n'en a pas les moyens.
C'est ça. Parce que justement, on discutait de ça aussi hors antenne. Il y a une question de moyens. Là, je dirais que dans le cadre de la ferme du Clos Marin, il y a cette activité qui est la vente directe au marché à la ferme, qui est quelque chose qui vous sauve quelque part. Parce que si vous n'aviez pas cette activité, je ne pense pas que vous pourriez fonctionner.
Effectivement, parce qu'on est aujourd'hui, je pense, une bien trop petite ferme pour faire vivre autant de gens. Hein. Si on ne faisait pas de vente directe, si on vendait tous nos produits en filière, donc du lait et un peu de viande, on ne pourrait pas s'en sortir financièrement. Donc aujourd'hui, on est deux exploitants temps plein, et plus une salariée à temps plein, et on vient de rembaucher une autre personne à temps plein également. Donc, sur une petite ferme avec 50 vaches laitières, aujourd'hui, on ne vit pas à autant de monde. Hein. Sans vente directe, c'est impossible.
Et sans être indiscret, avec des salaires minimaux.
Oui.
Ouais, voilà. Ce n'est pas beaucoup au-dessus du SMIC, ça. Si ce n'est en dessous. Voilà.
C'est ça.
Oui. Ce sont des secteurs difficiles à cerner parce que, voilà, c'est cette idée qu'on est dans la nature, qui a un côté, je dirais, bisounours. Mais en dehors du côté bisounours, il y a un côté surcharge mentale au quotidien.
Oui, alors effectivement, on vit dans un cadre privilégié. Hein. On a des hectares de nature tout autour de nous. On entend chanter les oiseaux, etc. Hein. Mais au-delà de cet aspect bucolique qui est sympa, hein, il faut le dire quand même. On a quand même la tête bien remplie du matin au soir, voire la nuit. Quoi.
Oui, parce que justement, on parlait de la vente directe et dans les marchés à la ferme, parce que le lait, alors j'ai entendu dire, mais peut-être que c'est un on-dit, hein, alors justement, je voudrais confirmer avec Janine, que le lait bio, il y a eu un moment où même les ramasseurs de lait, je ne sais pas comment on dit,
les collecteurs de lait
n'en voulaient plus parce qu'ils en avaient assez.
Alors aujourd'hui, il y a encore en grande filière un problème sur le lait bio, c'est que on nous dit qu'il n'y a pas de marché pour le bio. Donc nous, en vente directe, on n'a pas trop de problèmes de marché du bio quand même. On arrive à trouver des clients. On espère que ça dure encore. Hein, mais en tout cas, oui, alors je ne sais pas. Après, moi, je ne suis pas suffisamment en lien avec les laiteries pour avoir des infos là-dessus. Mais aujourd'hui, il est collecté pas forcément de manière séparée du lait conventionnel puisqu'il n'est plus valorisé en bio, quoi. Et en tout cas, il n'est pas mieux payé que le lait conventionnel. Donc ça, c'est un vrai problème, quoi.
Alors oui, parce que quand on dit pas mieux payé, qu'on se rende compte, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de secteurs où on ne voudrait pas travailler pour des aussi petites sommes. C'est combien le litre de lait ?
Alors nous, aujourd'hui, chez nous, on a une partie du lait qui est vendu en laiterie. Ce mois-ci, on est à 53 centimes du litre de lait. Donc je pense que les conventionnels sont à peu près au même prix que nous. Hein,
53 centimes, voilà. Mon Dieu. C'est quoi à l'heure actuelle ?
Hors taxe.
Hors taxe. C'est quoi à l'heure actuelle 53 centimes ?
C'est pas beaucoup de sous. Hein,
quand non, il en faut des centaines de litres. Ouais. Hein. Oui, c'est vraiment incroyable. On va faire une petite pause musicale et on va retrouver Janine juste après. Voilà, merci.
Tchuss ! C'est toujours comme ça, les gars. On va donner jusqu'à la dernière minute. Chouba ! Let's get allez, switch. Bébé, un joli loqueton. Danse pour moi, oui, fais-moi cadeau. Y'a personne en face, trop d'avant. J'ai tantôt, ils sont restés dans mon dos. J'ai les plugs, mamie, j'ai les clés. Tout ce qu'il faut, j'ai très gros réseau. Tout va bien, faut pas t'inquiéter, bébé. J'suis dans ça, tu connais. On casse à la porte si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Elle aime quand ses bras sont dans la nuit. Oh baby, je vais t'emmener. On casse la porte si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Fais toi belle, je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever et toi. Alors, pour ma femme, faut le haut niveau. Ben oui. Ma chérie, j'aime pas les blèmes trop. J'aime pas. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position.
Je réfléchis, j'y pense. Je réfléchis, j'y pense. Partout, comme à la maison. Je suis prêt, comme selon des temps. Pas d'échec, y'a que des leçons. Bibi veut manger maintenant. Alors, on va pour n'en pas de sang. Y'a personne qui fait semblant. Bélier, on te rend dedans. Moi, si je pars, je fais. Pour la monnaie, faut se lever tôt. Pour ma femme, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis. J'y pense, je réfléchis. J'y pense, pour la monnaie faut se lever tôt. Alors, pour ma voix faut le haut niveau. Ben oui. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis. J'y pense, je réfléchis. J'y pense, je réfléchis. J'y pense.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous voilà à l'antenne avec Jeannine. Et là, j'aimerais qu'on emploie, je dirais, des pincettes pour parler d'un sujet qui serait bon d'exposer au public, cette pression qu'on met sur les agriculteurs actuellement, au sujet de la dermatose nodulaire, qui n'est pas une zoonose. Donc déjà, on va commencer par là, donc ce n'est pas transmissible à l'être humain.
Donc en effet, la dermatose nodulaire, donc, c'est une maladie qui était plutôt bien plus au sud que notre pays, la France, quoi, jusqu'alors, et qui, avec les changements climatiques, peut arriver sur nos territoires. Donc il se trouve qu'il y a eu quelques cas, un petit paquet quand même maintenant, sur la région des Savoies en France. Et donc pour lequel notre gouvernement a pris des dispositions assez dramatiques.
Drastiques, oui.
Ouais. Puisqu'ils ont décidé d'abattre les troupeaux dès l'instant où il y avait un seul cas dans un troupeau. Donc on abattait la totalité du troupeau, on abat encore la totalité du troupeau. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de...
Mais c'est dramatique parce que, si je comprends bien, cette maladie n'est pas transmissible à l'être humain, ni par la viande,
ni par le lait. Ni par la consommation du lait.
Alors, quelle est la raison pour laquelle... On abat des troupeaux parce que c'est généralement quand même des petites exploitations ou bien d'autres plus grandes.
Oui, c'est généralement des petites exploitations parce que là-bas, il y a quand même des troupeaux qui ne sont pas non plus énormes. Donc, pourquoi on a décidé ça? Il semblerait que c'est pour garder un statut indemne à notre pays, en fait, pour pouvoir continuer à faire des exportations. Sauf que là, ça met des éleveurs dans des situations vraiment dramatiques.
C'est une
alors
pression
qu'il est,
terrifiante.
Ils n'ont toujours pas réussi à reconstituer leurs troupeaux pour ceux qui ont eu leurs troupeaux décimés, puisque on demande en plus qu'il y ait un nettoyage total des étables et puis encore une quarantaine qui dure je ne sais pas combien de jours derrière. Donc là, tout de suite, ils n'ont toujours pas de vaches dans leur étable. Et puis on sait que pour reconstituer un troupeau, il y en a qui parlent de 5 ans, mais moi, je parle plutôt de 10 ans, quoi, parce que c'est très, très long. Quand on achète des bêtes à l'extérieur, ce n'est pas les nôtres. Elles n'ont pas été élevées chez nous. C'est vraiment difficile pour les habituer aux habitudes d'un élevage parce que personne ne travaille de la même manière et vraiment, elles ne vont pas s'accoutumer comme ça du jour au lendemain. Donc je souhaite vraiment beaucoup de courage à ces éleveurs. Je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui vont redémarrer derrière, ça c'est à peu près sûr. Et c'est vraiment terrible, quoi. Je pense que il faudrait vraiment que le gouvernement entende qu'on peut faire autrement, qu'on peut juste éliminer les sujets malades, qu'on peut aussi peut-être... Il y a un des éleveurs qui l'avait proposé, que son étable serve de laboratoire, en gros, pour voir comment évoluait la maladie. Sauf que non, on n'a pas accepté ça, on n'a pas voulu chercher pour voir comment ça évoluait, quoi, en abattant que les animaux malades et...
Mais une
et
pression
en vaccinant le reste.
Voilà, une pression terrifiante, parce que comment est-ce qu'ils sont indemnisés dans ces cas-là, à coup de pied dans le derrière?
Alors, donc ils ont touché une partie d'indemnité apparemment, mais pas la totalité. Et puis, y a le gros problème de comment on indemnise la perte d'exploitation, puisque pendant toute cette période où on produit rien, il faut quand même vivre. Derrière, il y a des familles, il y a des charges qui tombent quand même sur l'élevage, de toute façon, qui est de la production, qui n'est pas de production. Hein, EDF ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, etc. Enfin, il y a plein de charges qui vont tomber quand même. Et voilà, ils doivent continuer à vivre et faire face pendant tout ce temps-là. Quoi.
Oui, puis il faut comprendre déjà que ce sont des gens qui sont sur la lame du rasoir au point de vue situation financière.
Voilà, déjà, oui, on parle de gens qui n'ont pas des millions de côté au moment où ça tombe, où ça leur tombe dessus. Quoi.
Mais quelque part, c'est un peu éliminer une autre partie d'agriculteurs, parce qu'on n'en parle pas de cet épuisement des agriculteurs, on n'en parle pas comme si c'était... Alors, je suis bien d'accord que 360 agriculteurs qui disparaissent par année sur, vous êtes 400 000 ou quelque chose comme ça.
Oui.
Hein, bon, je suis d'accord que ça fait un 0,1, non, mais moins, 0,01%.
Ça serait qu'un seul, ce serait déjà trop de trop.
Mais voilà, ce que je veux dire, voilà, on planque la merde au chat. Non, mais on va pas tortiller pour dire quelque chose. On planque la merde au chat, c'est-à-dire qu'on en parle pas, comme si ça n'existait pas. Et puis, on les pousse encore plus avec des règles qui sont drastiques et puis qui n'ont pas de sens, en quelque sorte.
Et bah, déjà, je pense qu'il faut que... Notre profession le reconnaisse, hein, qu'il y a des gens qui sont à bout, et, parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah ouais, mais lui, il avait d'autres problèmes, il avait des problèmes familiaux, machin. » Et en fait, ben non, on s'aperçoit que en premier, c'est des problèmes financiers ou sanitaires, ou, et qu'en fait, il y a d'autres problèmes qui se regreffent dessus, et qu'à un moment, le gars, il n'en peut plus, et puis il se met la corde autour du cou, quoi.
Oui, et puis l'épuisement, de toute façon, c'est toujours, on va dire, c'est monnaie courante, que toute personne qui est victime d'un épuisement, on dise oui, mais tout compte fait, sa vie privée, sa vie ci, sa vie ça. Alors, on ne cherche pas à voir dans l'autre sens, l'autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire dire oui, il est en épuisement, pas parce qu'il avait un problème, mais parce qu'il est en épuisement, il a eu un problème de famille. Parce qu'il est en épuisement, il a eu ce problème-là. Et si on regardait dans ce sens-là, c'est tout à fait différent.
C'est ça, parce que oui, d'abord, ça démarre par un petit problème, et puis dessus se greffe tout un tas d'autres problèmes, forcément. Quoi.
On dit bien quand l'auge est vide, les ânes se battent.
Ouais.
Donc c'est vrai que quand on a un gros problème financier, il y a aussi une grosse charge quand même pour les agriculteurs, une grosse charge financière.
Bien sûr, oui.
Quand on a un établissement agricole, c'est quand même... une charge
la charge importante. Financière est importante.
Oui. Quand et on puis, parle par exemple juste de l'électricité, quel a été le changement de vos factures ces deux dernières années? Ça, on peut en parler.
Donc il y a deux ans, on est passé du simple au double. Hein, nous, on était de l'ordre de 6 000 euros par an sur l'exploitation. On est passé à 12 000. Donc faut bien les prendre quelque part, hein, les 6 000 euros. Donc on les prend où? Sur le salaire de l'exploitant, hein, si on n'a pas plus de trésorerie d'avance. Comme nous, on n'a pas de salaire en tant que tel, on prend de l'argent si on a. Et c'est pas un salaire qui tombe quoi qu'il arrive. Et donc quand il y a des charges supplémentaires qui arrivent comme ça et qu'il n'y a pas forcément de quoi répondre en matière de produits face, faut prendre l'argent sur notre salaire à nous, quoi.
C'est une situation précaire. Et ça, il faut bien en parler. Parce que l'épuisement des agriculteurs, c'est d'abord dramatique. C'est honteux qu'on n'en fasse pas plus cas et qu'on n'en parle pas plus. Et en même temps, c'est quand même ce qui va nous nourrir. Et on parle de crise alimentaire, crise et autres, mais c'est quand même le local qui va nous nourrir. Donc, il faudrait qu'il soit soutenu.
Oui, je pense qu'il faut vraiment que chacun prenne conscience que l'agriculteur, c'est celui qui met de la nourriture dans l'assiette, quoi, hein, que ce soit n'importe quoi, des patates, de la viande, de la farine, tout vient à un moment d'un champ ou d'un animal, quoi. Mmh. Et sans le boulot de ces gens-là, y a rien dans les assiettes, il n'y a rien dans le supermarché.
Mmh. C'est tout à fait ce que je pense. Nous allons faire une petite pause musicale et nous reprendrons cette interview avec Jeannine juste après.
Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois.
Moi, je vis, je rêve et je m'en mêle parfois.
Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change. L'horizon qui se mélange. Les océans qui s'échangent. Vivre sur de rien, mon ange. Je m'arrange. Je dérange. Je mélange.
trouve et je m'emmerde parfois. Sur un coup de tête, je m'en vais. Sur un regard, je le sais. Sur un volcan, je fondrai. Sur les traces d'hier, je nais. J'aime la vie qui change le vent et ses louanges. J'aime quand c'est étrange, quand je m'arrange, je dérange, je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existent pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Bien loin de ça, s'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts, la nuit, le jour n'existent pas. On est bien loin de ça, s'il te plaît, crois-moi.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous retrouvons Jeannine. Et puis ensuite, nous aurons un petit témoignage de Sarah, qui est woofeuse à Ralentir pour vivre, qui nous parlera du maraîchage qu'elle a connu pendant 3 ans en Bretagne. Sujet très intéressant aussi. Jeannine, oui, alors, moi j'ai une question, mais j'ai toujours des questions stupides hein, de nature. J'ai toujours posé des questions stupides, mais c'est une question de cohérence. Alors, comment que ça se fait qu'il y a une telle inadéquation entre ce que ça coûte et ce que c'est vendu ? Parce que là, on discutait hors antenne, le prix du lait à 53 centimes. Si on reporte il y a 30 ans en arrière, ça faisait 3,50 euros en francs. Et à l'époque, oui, en francs. Et à l'époque, c'était déjà 3 euros. Donc, ça voudrait dire qu'en 30 ans, il n'a quasiment pas augmenté. C'est en quelque sorte ce qu'on peut en dire. Par contre, en face, est-ce que le prix du fuel a augmenté ? Est-ce que le prix de l'eau a augmenté ? Est-ce que le prix de l'électricité a augmenté ? Là, Jeannine, j'aimerais bien savoir.
Alors oui, effectivement, le prix du lait, il n'a pas tellement augmenté en 30 ans. Oui, c'est vrai que c'était déjà de l'ordre de 3 francs il y a une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, voilà, on est à 53 centimes d'euros. Donc 5 fois 6, 30. Allez, ça faisait... du même ordre, quoi. Et effectivement, en face, toutes les charges qui rentrent dans la ferme, elles ont flambé. Hein, on parlait du prix du fioul. Donc aujourd'hui, on ne met plus du fioul dans les tracteurs, on met du GNR. Donc ça, c'est du gasoil non routier, qui est un petit peu détaxé par rapport au gasoil des voitures, mais pas tellement, en fait. EDF, l'eau, enfin toutes ces charges de base des produits dont on a besoin pour nous produire du lait, elles ont flambé quoi. Mmh. Donc du coup en face, qu'est-ce qui nous reste ? Des miettes hein, finalement, puisqu'on réduit toujours le revenu que peut générer la production laitière ou la production d'autre chose. Hein. D'ailleurs, je prends comme exemple le lait parce que je le connais. Donc voilà, comment on fait ? Comment
oui, on fait et puis, pour organiser et puis d'un autre côté, on a l'impression que parce qu'on va dans un supermarché, c'est marqué supermarché, on va acheter des choses de bon marché. Et pas du tout. Je me suis fait la réflexion personnellement que le fromage que j'achetais au marché sur le stand de Jeannine me coûtait moins cher que dans un supermarché. Donc il y a aussi toute une croyance populaire qui croit qu'elle va acheter quelque chose de bon marché parce qu'elle va au supermarché. Parce que quand on regarde bien, et alors à qualité égale, je ne parle même pas de qualité égale, hein, je parle de qualité absolument pas égale. Et là, déjà, on a des prix relativement importants.
Alors oui, parce que les supermarchés, si on revient pareil, hein, un peu plus que 30 ans en arrière, parce que moi j'ai 53 ans, mais quand j'étais gosse, j'ai quand même connu une période où le supermarché n'existait pas dans nos campagnes, où du coup, il y avait finalement beaucoup moins d'intermédiaires. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le supermarché, donc qui soi-disant est l'allié des consommateurs pour proposer des super prix bas, quoi, le supermarché, il y a plein d'intermédiaires avant que votre produit il arrive là fini dans votre rayon de supermarché. Et donc tous ces intermédiaires, ils vont prendre leur petite part du gâteau au passage, voire des fois des grosses parts de gâteau. Et qui est-ce qui trinque? C'est ceux qui sont au debout, donc c'est nous, les producteurs, les agriculteurs notamment. Et à l'autre bout, c'est vous, les consommateurs, qui payez la note aussi, quoi. Et entre-temps, eux, ils vont prendre tout ce dont ils ont besoin pour faire du profit, parce qu'eux, ils sont là pour faire du profit. Mmh. Et voilà, donc si des deux bouts de la chaîne, on n'est pas content, ce n'est pas grave.
Donc c'est une prise de conscience du local, la vente en direct, ouais. Qui est, la vente en direct, hein. L'IA me regarde parce que tout d'un coup je bégaye, mais c'est la rentrée, l'IA. comment vois-tu tout ça, toi, l'IA qui est consommatrice quand même?
Moi je suis outrée, hein, comme la plupart des gens, hein. Je pense qu'on est très conscient de ce qui se passe. Après, malheureusement, que peut-on faire en tant que consommateur? Consommer de façon consciente, ça, on essaye au maximum de le faire. Mais quelles sont les possibilités que nous, on a en tant que consommateur pour vous aider, par exemple? Ça reste encore un petit peu abstrait.
Alors, pour les consommateurs, il faut qu'ils essayent un maximum de consommer en vente directe, donc ça soit via des marchés. Il y a aussi des AMAP qui existent pas mal. Donc là, les AMAP, c'est des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Généralement, elles sont construites à l'initiative de consommateurs, en fait, qui cherchent à consommer mieux. Donc, qui vont à la rencontre d'agriculteurs et proposent de leur acheter des paniers de produits. Donc, nous, pour notre part, à la ferme du Clos Marin, on fait partie d'une AMAP sur Épinal qui s'appelle l'AMAP La Friche, où on est maintenant. Il y a un maraîcher, il y a un producteur d'œufs, il y a un producteur de pain, il y a une productrice de fromage de chèvre et nous, en fromage de vache. Donc, les producteurs, ils viennent chercher quand même une multitude de produits. Voilà, je vous incite vraiment à essayer de consommer comme ça. Ça existe, ça peut encore se développer. Et il faut vraiment aller chercher autour de vous où est-ce qu'il y a de la production en vente directe, parce que ça vous aidera à manger des bien meilleurs produits qui sont produits tout près de chez vous, qui font travailler des gens. Donc c'est du tissu social local aussi qui est vraiment très très important. C'est du développement d'économie locale et c'est aussi ça qui fait la richesse de nos milieux ruraux, quoi.
Oui, on te retrouve, Jeannine, marché bio au port d'Épinal, une fois tous les 15 jours, également à 4 heures l'après-midi.
Oui. Hein.
Et puis à Bain-les-Bains et à plein d'autres endroits encore.
Aussi le marché d'Usemin, donc c'est un petit village qui a développé un marché de producteurs. Le marché de Bain-les-Bains, oui. Et en vente directe à la ferme.
Et en vente directe à la ferme, oui. Ce sont tous des points qui sont importants d'acheter en direct, parce que ça sera quand même le futur de, pour vivre ou survivre peut-être un jour, parce que là, on sent que la tension monte, hein. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Je ne saurais dire que demain, c'est le 10. Voilà, donc en circuit court, c'est peut-être important de se mettre à consommer en circuit court. Question de rester cohérent. Alors voilà, là, on va juste faire une petite aparté. Bonjour Sarah.
Bonjour Catherine.
Voilà, qui est en woofing à Ralentir pour vivre là cette semaine. Et raconte-nous un peu ton expérience que tu as fait en Bretagne.
Pendant 3 ans, j'ai eu l'occasion de vivre dans un collectif, dans le Morbihan. Et c'était très, très enrichissant parce que ça m'a permis de côtoyer des maraîchers qui vivaient également sur place, donc qui étaient investis tant dans l'association, dans le collectif, que dans leur société d'agriculture. J'ai pu constater que c'était un métier vraiment très, très difficile, surtout au début. Le temps de s'approprier les terres, que tout le biotope se resynchronise et se retrouve un nouvel équilibre aussi. Donc les premières années sont particulièrement difficiles pour les personnes qui s'installent. J'ai pu aussi constater que c'était un vrai défi de pouvoir vivre uniquement de l'agriculture. Donc ici, les maraîchers, ils avaient encore droit au RSA, ce qui les a beaucoup aidés. Il y en a aussi un des deux qui travaillait l'été pour pouvoir à temps partiel pour pouvoir avoir suffisamment de liquidités pour vivre le reste de l'année. Et on avait quand même le constat que ici les maraîchers vivaient dans un milieu privilégié dans le sens où on était dans un collectif et donc il y avait certaines charges qui étaient plus diluées. J'imagine que quand on est isolé, c'est vraiment très compliqué de vivre ça. Surtout qu'ici, il y avait aussi le soutien moral et du collectif pour certaines choses. Par exemple, on fonctionnait aussi un peu en comme une AMAP. Donc, eux, leur surplus ou les légumes moins beaux, etc., ils pouvaient les vendre au collectif. Donc, c'est vrai que ça leur faisait une rentrée financière un peu plus sûre ou qui permettait, quand ils avaient des imprévus de production, de pallier à ça. Et aussi, c'est vrai qu'ils étaient des fois surpris aussi leur collaboration avec certains magasins bio qui refusaient certains calibres, etc. Donc ça, c'était aussi une des difficultés qu'ils avaient à devoir négocier les prix et négocier les calibres qui étaient pris par des magasins qui faisaient pourtant leur publicité sur le fait qu'ils soutenaient les agriculteurs biologiques. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui m'a surpris où j'ai reconsidéré le fait de passer par ces magasins-là et où, en effet, comme dit Janine, finalement, il n'y a rien de mieux que la vente directe.
Oui, ben, je reviens à ce que dit Lia. Comment on peut faire pour soutenir toute cette cause paysanne? Eh bien, justement, acheter en direct et puis rechercher tous les circuits courts qu'on peut rechercher. Vraiment, parce que dans les deux cas, là, on a vu une chose, c'est que eux, ils arrivent à tenir le coup. Et je pense que chez Janine, c'est un peu la même chose parce qu'ils sont plusieurs. Donc, il y a un soutien moral entre les personnes. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communauté, hein. Donc, qui permet quand même de ne pas être isolé. Mais imaginons ceux qui sont seuls, ça doit être désespérant. Ça doit être même difficile à vivre.
Mon cœur en miettes, tout balayé, les paillettes. La vie est papier et moi poète. Je t'écris la vie d'après, sois prête. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement. J'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé pour toi. Infiniment. Attends, regarde-moi. Sois ma famille. Crois en ma mère. Voilà ton homme accompli. Regarde-moi. En reparti. Crois en ma mère. Voilà ton homme pour la vie. Oh, j'ai changé, changé. Changé, changé. Sans les dire, faut dire qu'on a mal, qu'on se dit c'est normal. Et un jour, en un sourire, sauve l'avenir. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement. J'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé, tu vois, obstinément.
voilà, chères auditrices et auditeurs, nous revoilà à l'antenne, Lia.
Catherine.
Oui. J'ai eu des compliments pour notre dernière émission de sortie. On m'a dit, oh, c'était joyeux. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait la fête.
Ah, bien sûr.
Hein, des... voilà. Alors là, on est sérieux. Maintenant, on a nos petits cartables. Hein.
Ben oui, c'est vrai.
T'as ton nouveau petit crayon aussi.
Tout à fait.
T'as ton nouveau petit cahier.
Oui.
Et puis alors, avec les bonnes résolutions, hein, tu commences à écrire tout propre. Tu me fais pas de tâches, hein,
non,
pas de pâté.
Promis. J'ai mon nouveau petit stagiaire.
Oh, tout va bien. Parfait.
Oh, parfait.
Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre agriculture. Voilà, alors j'ai envie de dire être bio, qu'est-ce que ça signifie? Parce que voilà, on parle beaucoup de bio, 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 alors il y a différentes catégories de bio, on est d'accord, mais au quotidien, comment vivent ces éleveurs bio?
Alors, l'agriculture biologique, c'est un label, hein, donc qui dit label dit contrôle. Donc, quand on est en bio, donc on a tout un cahier des charges à respecter qui est établi pour toutes les productions. En fait, donc il y a des choses très très précises. Si je prends des exemples, c'est des mètres carrés supplémentaires pour les vaches, par exemple, par rapport à des conventionnels. C'est l'obligation de sortir à l'extérieur pour les animaux, enfin voilà, des choses comme ça. Donc tout ça, ça va être contrôlé deux fois par an sur place. Et puis après, il peut y avoir aussi des contrôles plus administratifs, on va dire, vraiment sur du papier, quoi. On en parlait aussi hors antenne, il faut payer pour
oui, c'est ça. Je trouve ça
pour être reconnu bio, hein, on est
le label.
Donc on a un organisme certificateur qui nous édite une facture aussi chaque année, hein, pour ces contrôles.
On ne pollue pas la planète, on est respectueux, on est responsable et on paye.
Voilà, mais bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un label du coup qui est fiable, hein, parce qu'on est vraiment très très contrôlé. Et puis au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire être bio? C'est aussi, donc c'est un choix, hein, au départ, c'est pas une obligation. Et du coup, c'est aussi un état d'esprit, j'ai envie de dire.
Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, parce qu'il y a 20 ans, hein, 22 ans que vous avez l'exploitation?
Oui, je me suis installée il y a 22 ans donc, sur une ferme hors cadre familial, donc qu'on a acheté à une personne tiers, hein, qui n'était pas de notre famille, qui n'était pas en agriculture bio. Donc on est resté quelques années en conventionnel. Ensuite, on a signé ce qui existait à l'époque, un contrat d'agriculture durable dans lequel on s'engageait à ne pas mettre trop d'engrais sur les prairies, entre autres. Mmh. On n'est pas allé jusqu'au bout du contrat d'agriculture durable, puisqu'on a basculé sur l'agriculture biologique en cours de contrat, en fait. Mmh. Mais comme c'était mieux disant, on a eu le droit de le faire. Parce qu'en fait, on faisait déjà de la vente directe à cette époque-là, et nos clients nous posaient beaucoup de questions sur nos façons de produire. Du coup, on avait toujours l'impression d'être obligé de se justifier sans finalement pouvoir dire « oui, on est en bio ». Mm-hmm. Donc, on est parti dans la conversion en agriculture biologique, donc qui a pris un peu de temps, hein, puisqu'il faut convertir les terres et les animaux et... Mm. Avant d'avoir le droit de dire on est en agriculture biologique.
Oui, et puis c'était une passion parce que un peu ton cursus, c'est quand même un cursus d'une passionnée.
Oui.
Des parents agriculteurs.
Alors des parents agriculteurs, mais qui n'étaient plus agriculteurs quand je suis née.
Une école d'agriculture.
Une école d'agroalimentaire, puis de fromagerie. Et ensuite, j'ai travaillé en ferme, mais uniquement en transformation fromagère.
Voilà.
Puis chez un affineur de Münster. Et ensuite, j'ai eu un projet d'installation en Haute-Saône qui ne s'est pas...
Concrétisé,
voilà.
Et puis la rencontre d'un autre passionné.
La rencontre d'un autre passionné d'élevage.
Voilà, Yannick.
Yannick qui a fait, lui, des études agricoles, il est ingénieur agricole. Et donc, qui travaillait en chambre d'agriculture, puis on a repris cette exploitation-là ensemble, quoi.
Une vraie passion familiale.
Oui.
Voilà, très bien. Mais alors justement, on parlait hors antenne du bio et Sarah nous expliquait un témoignage qu'elle avait pris, alors c'est intéressant de l'entendre.
Oui, donc j'ai fait du woofing aussi au Québec et j'ai eu la chance de côtoyer Chantal et Jocelyn qui travaillaient en maraîchage en traction animale, donc avec des ânes. Donc eux, il y avait vraiment aucun polluant qui entrait dans le champ, même pas un tracteur, rien. Et eux, ils ont fait le choix de ne pas demander le label bio et de clamer de vendre des légumes écologiques. Et ils ont fait comme ça la pub auprès de leur clientèle en vente directe en disant « Nous, on refuse de payer un label. On ne trouve pas normal de devoir payer alors que nous, on est soigneux de nos animaux et de notre terre. » et voilà, ils ont vraiment, c'était leur manière de militer.
Oui, c'est intéressant. Oui, voilà. Parce que quelque part, pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur ceux qui ne sont pas bio produits de... tu me fais le bip, produit de l'IA.
Bip.
Voilà, produit de, vas-y, Berthe.
Bip.
Voilà. Non, mais on refait, produit de.
Bip.
Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça. Mais en gros, pourquoi, c'est choquant ça, pourquoi on ne met pas, c'est vrai ce que tu viens de dire m'interpelle, pourquoi on ne met pas produit, allez, on va dire pas de, non, mais bon, produit non conforme à la santé ou bien un truc dans le genre. Ah, bonne question quand même.
C'est une bonne question, effectivement.
Et qu'on ne fait pas payer une taxe à ces gens-là.
On connaît aujourd'hui quand même les problèmes de santé qui peuvent découler de l'utilisation de pesticides. Hein. Je pense que ce n'est pas une légende. Hein. Aujourd'hui,
non,
on a des résultats d'enquêtes,
ouais.
etc. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même arrêter de nier. On sait que tous ces produits-là posent des problèmes et pourtant on continue de les utiliser en conventionnel.
Oui, et puis rien n'est marqué dessus.
Ok,
hein.
On dit on en utilise moins qu'avant, mais
est-ce que c'est contrôlé ça ?
Bah, c'est tellement cher qu'on n'a sûrement pas envie d'en utiliser plus qu'il n'en faut, hein. Ça c'est une certitude, mais pour autant on en utilise toujours trop. Et il faut vraiment arrêter de nier les méfaits de ces produits-là.
Ah ben c'est sûr.
Et il faut vraiment arriver à faire autrement, quoi.
Moi, j'ai
en
des...
bio ou pas en bio, quoi. Je veux
tout
dire,
à fait.
Il y a un moment.
Il y a des candiratons. Alors, ne mettez pas de poids à ce que je vais dire, hein, parce que ça n'engage que moi. Mais une kyrielle de cancer du pancréas ultra fulgurant.
Oui.
Et autour de chez moi, c'est un petit village, hein, 250 habitants. Il y en a déjà 4.
Oui.
Hein, juste pour dire, de femmes de 50 à 65 ans. Enfin, j'entends. 4 en l'espace de même pas une année. Hein, on va même pas. Donc on se pose pas plus de questions que ça et on continue gentiment à, on va dire à empoisonner le monde. Et alors je tiens à le dire, à ne pas mettre de label, vous vous empoisonnez, mais par contre à faire payer un label, vous ne vous empoisonnez pas. C'est quand même fantastique. Non mais c'est fantastique quand même. Qui est-ce qui devrait payer dans ces cas-là ? Pas celui qui fait quelque chose de correct. Logiquement.
Non, effectivement, on a bien l'impression que ça serait mieux dans l'autre sens. Mais
ce serait plus cohérent quand même. Ce serait nettement plus cohérent. Enfin, je sais que je mets toujours un caillou et un pied dans la mare. Enfin bref, je fais plouf. Ce n'est point grave. C'est une manière de faire. On me reconnaît. Voilà.
Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, pas d'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul et personne à qui le dire. C'est pas le pire quand la pause arrive. Je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser les coups dehors. Il faudra que je coule. Pour m'en sortir, je te tenir et construire mon futur. Partir à la conquête, une fille moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mes chaussures, mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Cool. respirer dans ce monde parmi vous.
Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous.
Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous.
Il faudra que je cours.
Pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, eh bien, nous allons finir cette émission, mais avant, on va revenir vraiment au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est l'épuisement de l'agriculture et des agriculteurs, parce que c'est quand même un épuisement violent. Mais surtout sur un point bien précis, l'omerta qu'il y a dans la profession, l'omerta sur la difficulté de cette profession et sur la difficulté aussi de garder la tête hors de l'eau et aussi du doigt qui est pointé sur cette profession. Jeannine, par rapport à ça.
Alors oui, effectivement, c'est une profession où il y a une vraie omerta, sur, notamment sur les sujets financiers. Un agriculteur, enfin... Cette profession est globalement taiseuse. On ne dit pas quand on a des problèmes. On se cache. Surtout, il ne faut pas que ça se sache. Je vais prendre notre exemple. Nous, il y a une quinzaine d'années, on a été en redressement judiciaire. Enfin, un peu moins de 15 ans, oui, 10 ans. Donc, on s'est fait montrer du doigt par la profession parce que c'est une honte de pas pouvoir payer ses factures. Et pourtant, le redressement judiciaire, c'est une procédure légale hein, en France. Il y a plein d'entreprises qui se mettent en redressement quand elles sont plus en capacité de payer leurs fournisseurs. Et dans d'autres milieux commerciaux ou industriels, ben ça passe. Hein. Il y a plein d'entreprises qui sont en redressement chaque année. Donc certaines finissent en liquidation, d'autres se redressent effectivement et repartent et arrivent à se redévelopper. Et pourquoi en agricole on n'a pas le droit de se mettre en redressement?
Mais c'est peut-être par un passif, parce que ça a toujours été des fermes familiales, donc il y a un côté orgueil familial, il y a peut-être ce passif, or que maintenant, il n'y a plus automatiquement un orgueil familial, ce n'est pas automatiquement une exploitation familiale.
C'est pas automatiquement une exploitation familiale, mais on s'aperçoit que c'est quand même pas si simple de reprendre une exploitation quand on vient d'ailleurs.
Ce que je veux dire, c'est ce côté pointé du doigt par rapport à une autre entreprise. Parce qu'il y avait, dans le temps, même si maintenant c'est plus toujours comme ça, le côté exploitation familiale.
Oui.
Donc, c'est pas comme une entreprise. C'est pour ça qu'on montre du doigt.
Le côté exploitation familiale, il y avait quelque part une obligation de réussir parce qu'on nous avait transmis quelque chose, il fallait la retransmettre à son tour, etc. C'est vrai que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres professions. Mais voilà, moi je pense qu'il faut vraiment arrêter dans cette profession de se regarder les uns les autres, de se dire tiens celui-là, t'as vu le beau tracteur qu'il a acheté, dis donc il a des sous, tiens celui-là, t'as vu, il n'arrive pas à faire son boulot, on va le bouffer. Non, là il faut arrêter avec tout ça, chacun a sa place.
Oui, c'est ça.
Et puis peut-être qu'aujourd'hui on a des difficultés, demain on s'en sortira. Et il faut comprendre aussi pourquoi quelqu'un peut avoir des difficultés, ou en tout cas, il faut essayer de lui tendre la main. Peut-être on peut l'aider aussi.
C'est ça,
peut-être
oui.
qu'elles sont temporaires, ces difficultés.
Ouais.
Et ça vient, comme on en parlait tout à l'heure, souvent il y a une difficulté qui en entraîne d'autres. Et ce n'est pas forcément de la faute du paysan qu'il n'a pas su bosser, qu'il a été feignant. Parce que ça aussi, on l'a entendu. Et voilà, je pense que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a.
C'est quand même un métier qui a beaucoup évolué dans les 60, allez, on va dire, plus, 60 dernières années. Parce que c'était un métier qui, à la base, je dis bien à la base, avant qu'il y ait tous ces tracteurs, toutes ces machines et tout, était un travail communautaire, c'est-à-dire que les foins se faisaient avec les gens du coin, tout le monde se mettait ensemble. Il y avait tout cet côté repas, effort commun. Et puis, avec la venue du matériel, eh ben, ça s'est terminé, tout ça. Et il y a quand même une rupture à ce niveau-là, dans la mentalité.
Il y a une rupture à ce niveau-là. Et il y a, du coup, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'isolement.
Voilà.
Parce qu'en fait, on est aussi à travailler chacun dans notre coin et des fois, même avec d'autres agriculteurs, on s'aperçoit de loin en tracteur, mais on n'a même pas forcément se parler, parce que déjà, on est tous pris par le temps. Et voilà, c'est vrai qu'on est bien plus isolés qu'avant, je pense.
Oui, il y a quand même cette modernité à double tranchant qui a quand même enlevé à cette profession ce qui lui donnait un certain sens, dans le sens commun. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, Pierre faisait les foins, tout le monde allait faire les foins avec lui. Oui. Et après, on faisait chez Paul, et après, on faisait chez Jacques, et tout le monde se mettait ensemble, parce qu'un tout seul ne pouvait rien faire, d'accord ? Et puis, dès que les tracteurs sont arrivés, c'était fini. La moissonneuse-batteuse, on la louait, il venait, le gars, il faisait, pof, terminé, il repartait. Il n'y avait pas le repas en commun, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y avait toute une vie sociale aussi qui s'est effacée. Et un isolement, comme tu parles, qui est quand même très violent maintenant.
C'est ça. Aujourd'hui, on a un agriculteur par village, en moyenne. Hein. Avant, dans ces mêmes villages, il y en avait peut-être 10, 15. Donc forcément, ils se voyaient plus déjà. Ils arrivaient plus à échanger. Aujourd'hui, on fait des fois des kilomètres dans les champs sans croiser personne d'autre.
C'est un métier qui est, qui se porte pas très bien en ce moment. C'est-à-dire que, dans le cas de Jeannine, c'est quand même joyeux. C'est un des fils qui va continuer.
Oui, il y a un de nos fils qui est vraiment intéressé pour reprendre la ferme, effectivement.
Oui.
On n'est encore pas en retraite, parce qu'on a 53 ans tous les deux.
Jeune,
l'âge de la retraite aujourd'hui, on ne sait plus trop à quel âge il est. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est encore là pour un petit moment. Mais effectivement, quand on sait qu'on a un fils qui a envie de reprendre le flambeau, ça fait du bien.
Ça a plus de sens.
Ouais.
Et puis, vous travaillez quand même dans une micro-communauté en famille, quand même.
Oui, et puis alors nous, du lien social, on en a grâce à la vente directe, quand même.
Voilà.
Donc, quand on croise nos clients toutes les semaines au marché, on est aussi dans des magasins de producteurs. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand on parlait des prix, mais il y a aussi dans les magasins de producteurs qu'on peut aller à la rencontre des producteurs et trouver des produits en vente directe. Mon mari, lui, va beaucoup sur les magasins de producteurs, donc il est aussi en lien avec les clients par ce biais-là. Donc voilà, c'est vrai qu'on a du lien social quand même. On sort de notre ferme et ça fait beaucoup de bien.
Oui, et je pense que ça, quand Lia demandait qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'en allant en vente directe, en allant dans les lieux comme les AMAP, on rencontre d'autres gens, on crée d'autres réseaux, il se passe d'autres choses. Et il y a tout ce côté humain qui existait avant les machines, qui renaît d'une autre source, mais qui renaît d'une autre manière et qui est très importante.
Oui, qui est très importante, et qui donne vraiment du sens à notre métier, puisque on vend nos produits finis qui au départ sont sortis de nos terres, de nos animaux. Et ça, vraiment, on peut expliquer aux gens comment on a produit tout ça. Et ça donne vraiment du sens à notre métier chaque matin, quoi.
C'est une sorte de reconnaissance qui est directe et qui en même temps vient naturellement.
C'est ça.
Oui, et qui est importante. Et donc, dans le cadre de Sarah, l'expérience que tu as fait là en Morbihan, il y avait aussi tout ce côté communautaire qui était très important.
Ah oui, extrêmement important. Ici, les maraîchers, s'ils se sont installés, c'est parce qu'il y avait ce soutien, parce qu'ils étaient plusieurs, donc ils pouvaient concilier aussi la vie familiale et la vie et leur travail de maraîcher. Parce que c'est vraiment très, très difficile quand on a une famille de ne pas pouvoir partir en week-end, etc. Encore plus dans le cas des éleveurs, je pense, où il y a des animaux dont il faut prendre soin, que les légumes, ma foi, des fois, tu peux les laisser un peu pousser tout seul. Mais ici, les maraîchers, c'était vraiment un des critères pour lesquels ils se sont installés. D'ailleurs, ils ne se seraient pas installés autrement qu'à plusieurs.
Oui, et là, effectivement, c'est aussi par rapport aux éleveurs, là, le peu de vacances qu'on peut avoir dans ce genre de métier, on va dire ça comme ça. Comment vous faites, vous, pour vous absenter ?
Effectivement, c'est pas toujours évident.
Voilà.
On ne peut pas laisser les animaux, ne serait-ce qu'une journée, surtout quand c'est des vaches laitières, puisqu'elles sont traites 2 fois par jour chez nous. On n'a pas de robot de traite, mais même avec un robot de traite,
oui, pour une bonne raison, d'ailleurs.
Éleveur, il est obligé de surveiller quand même.
Non, mais j'ai bien aimé la bonne raison, qui est quand même très, je dirais, proche de la nature et proche de, je dirais, de l'empreinte carbone ou de l'énergie à dépenser. Donc, il n'y a pas de trieuse parce qu'elle refroidirait le lait que vous devriez refaire chauffer après. Je ne sais pas, tu m'avais expliqué un truc comme ça.
Oui, effectivement. Et nous, c'est un choix de ne pas mettre de robot de traite à cause de la transformation à la ferme, puisqu'on travaille le lait chaque matin après la traite. On l'envoie du coup directement chaud à la fromagerie. Donc du coup, on fait des économies d'énergie puisqu'il n'est pas d'abord refroidi pour être réchauffé ensuite pour faire du fromage. Donc il arrive juste à la bonne température pour faire le fromage ouais. directement.
Fallait quand même le dire, ça, parce que c'est quand
voilà,
même...
C'est vrai,
parce
c'est
que
important.
Tout ce métier dont on a parlé, là, durant cette heure qui est déjà presque passée, eh bien, l'IA, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que ce sont des gens passionnés, des gens qui vraiment y croient terriblement et en même temps qui ont une illusion, aucune... Allez, on va pas dire... Qui ont aucune illusion de devenir riche.
Ah ben ça, on le fait pas pour ça, je pense.
Non, mais on devient riche en lien, riche en... En, je dirais en...
Riche de sens, quoi,
voilà.
De ce qu'on fait.
Oui, oui, j'aime bien parce que l'IA a je dirais, un œil extérieur à moi. Moi, je commence à bafouiller. Et voilà, la richesse de la vie sociale, la richesse.
Oui, le lien, tisser du lien. Et puis avec la terre, les animaux, les autres.
Voilà.
Voilà, c'est la base, quoi.
C'est ça. La richesse, c'est le lien à la terre, à tout notre environnement.
Tout à fait.
Et puis tout ce qu'on reçoit aussi de la part de nos clients, pas en argent, hein, mais en tout ce qu'ils nous disent sur nos produits, sur la façon dont on travaille. Donc ça, c'est une vraie richesse, effectivement. C'est pas la même que celle dont on entend parler souvent, mais c'est une richesse.
Mais c'est joyeux, c'est très joyeux. Eh bien, écoutez, chères auditrices et auditeurs, d'abord, je vais remercier Jeannine pour sa présence aujourd'hui, parce que avec tout ce qu'elle a comme activité, ça a été quand même assez rock'n'roll, on va dire, de pouvoir être là.
C'est vrai que c'était pas très évident le timing de cette semaine, mais on a réussi. Et je suis contente d'être là, c'était une belle expérience.
C'est gentil, merci beaucoup. Merci à Sarah d'avoir participé également. Et merci à l'IA et à Radio Gemozo qui nous donne cette grande opportunité de pouvoir s'exprimer.
Bah, merci à toi surtout.
Et de pouvoir exprimer ce qui se passe dans différents métiers dans lesquels il y a une grosse propension d'épuisement.
Tout à fait.
Et puis là, nous retrouverons un autre invité surprise dans 15 jours. En attendant, je vous remercie de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et je vous dis à très bientôt.